À l'occasion de la journée de la laïcité et de la publication par l'IH2EF du rapport du cycle annuel des auditeurs portant sur la laïcité et les valeurs de la République de l'école à l'université, l'IFE a organisé une table ronde rassemblant inspecteurs, chercheurs ayant participé à ce cycle des auditeurs. Luc Ria, directeur de l'IFE, introduit cette table ronde.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais simplement introduire cette table ronde et laisser très rapidement la place pour que le contenu soit en débat. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Bienvenue à l'Institut français d'éducation. Je voudrais aussi dire bonjour aux collègues qui sont à distance. Il y a une trentaine de personnes à distance, voire plus peut-être dans les minutes qui vont suivre. Et puis une trentaine de personnes ici. Donc, ça n'a pas été très facile. Merci Sarah Levin, Marjo Berlot d'avoir organisé, d'avoir nous avoir aidé à organiser, impulser cette journée sur la laïcité. Alors, pour moi, c'est au niveau institutionnel, en tant que directeur de l'Institut français d'éducation, le moment de rappeler la bonne relation qui se tisse, qui se noue avec un certain nombre d'acteurs ici présents. Je voudrais en tout cas en rappeler quelques éléments. Pierre-Emmanuel Raffi de l'IH2EF, merci d'être là. Puisqu'on a des relations pérennes, des conventions avec l'IH2EF, et que Charles Taurossian, en tout cas, est présent dans tes mots, c'est ça. Et en tout cas, vous avez lancé, en tout cas, je trouve que cette initiative des experts, le travail qui est effectué pour un rapport d'étonnement qui produit un texte tout à fait stimulant sur la laïcité. Alors peut-être que ce texte va être discuté après. Il y a eu une première restitution, c'est ça, au ministre. Donc, je pense que tu vas le rappeler bientôt. J'ai lu ceci avec beaucoup d'intérêt également de mon côté. Et puis, on arrive ici à l'IFE, dans un deuxième temps, avec autour de la table, autour de cette table ronde, des universitaires. Samia Nangar, bienvenue, ECP. Ça nous fait plaisir de pouvoir aussi bénéficier de ton expertise sur cette problématique compliquée. Hein. Je trouve ça excessivement compliqué en tant que naïf par rapport au sujet. Madame Vercueil, je mets Madame Vercueil par rapport à l'institution. Merci beaucoup de représenter à la fois Monsieur le Recteur et puis le Rectorat et toute la partie institutionnelle. Et là aussi, il y a quelque chose d'important, d'essentiel par rapport à ce socle important et compliqué. Hein. Enfin, je vais revenir sur ces éléments-là. Et puis, chers collègues, hein, principal d'établissement, c'est ça maintenant, adjoint, et qui a aussi une bonne connaissance et expérience de cette question de laïcité. Alors, c'est pour, il me semble que, enfin, quand je vois ce concept de laïcité, comment faire pour à la fois garantir une forme de neutralité pour que chacun puisse s'exprimer, comment faire en sorte qu'il y ait quand même une laïcité dynamique, vivante, et je retrouvais ceci dans les propos de Ricoeur, pour qu'il puisse y avoir de l'émancipation, de la construction individuelle et collective, c'est presque paradoxal, hein, comment on peut faire ça? Comment les enseignants s'en sortent actuellement? Comment les enseignants, je crois qu'on aura des témoignages sur cette perspective-là tout à l'heure, arrive à appréhender cette question sociétale qui est au cœur de leur travail avec des mots simples par rapport à cette diversité culturelle et par rapport à la complexité sémantique, philosophique, politique de ce concept-là. C'est redoutable et j'aurais besoin moi-même d'une formation concrète pour pouvoir être au moins outillé et être capable dans le dialogue avec des élèves, avec des collègues, avec des parents dans ces différents mondes, avec ces différentes intelligibilités, avec ces tensions vives parfois, pour trouver ma place en tant qu'enseignant. Et donc, j'imagine qu'il va y avoir ces problématiques qui vont apparaître. Je suis curieux et en attente, et nous sommes ravis au niveau de l'IFE de pouvoir être une forme de caisse de résonance entre la recherche, l'institution, l'IH2EF, ce rapport d'étonnement, pour que une réflexion se poursuive et qu'on puisse, à plusieurs niveaux, imaginer des extensions possibles de cette problématique-là. L'IFE produit des ressources d'interface et il me semble ici que ça peut être l'occasion, une opportunité pour nous de travailler ensemble de manière intercatégorielle, interstatutaire et sur un sujet vif qui nous intéresse tous. Bienvenue et puis très, très bonne table ronde, en espérant que vous puissiez en profiter en présence et à distance.
Bonsoir à tous. Donc, Régis Guyon, je suis donc directeur adjoint de l'IFE et par ailleurs rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Diversité. Et cette table ronde tombe assez bien, en tout cas pour cette revue et pour l'IFE, comme l'a dit Luc juste avant moi, parce qu'on est sur le point de publier, je pensais qu'il serait disponible dès ce soir, mais il ne le sera pas, un numéro sur la question des religions. C'est une autre manière de parler de ce sujet-là, mais des religions et l'école, auxquelles Samia a contribué, et d'essayer de regarder finalement derrière ce mot de la laïcité, il y a la diversité culturelle, mais il y a aussi des savoirs, et il y a aussi des enseignements, et que la question des religions ne peut pas être évacuée ou mise sous le tapis, parce qu'elle participe aussi de cette... de ce commun, j'allais dire, culturel au moins, ou qui permet aussi parfois des affrontements, mais aussi le dialogue entre différentes catégories d'élèves. Alors, ce rapport d'étonnement est un objet qu'il va falloir expliciter parce que c'est un peu un ovni aussi en termes d'objet lui-même, commandé, j'allais dire, par un institut. Voilà, donc il faudra raconter, je compte sur Pierre-Emmanuel pour le faire, la genèse et la nature de cet objet-là, de l'adressage, c'est-à-dire il s'adresse à qui et pourquoi faire. C'est un peu le sens de cet objet, ce n'est pas un objet universitaire, ce n'est pas un objet de formation, voilà, c'est quoi. Et puis dans un deuxième temps, je proposerai à Samia et à Fit de nous... finalement, de partager avec tout le monde un peu l'expérience qu'ils ont vécue, qui est sans doute aussi atypique d'une certaine manière, voire inédite pour eux, l'expérience qu'ils ont vécue pendant un an, en parcourant le territoire métropolitain, ultramarin, en rencontrant toute une série d'experts, d'institutions aussi, françaises ou étrangères, pour se faire une idée, finalement, derrière des principes qui peuvent paraître assez simples, j'allais dire, pas dire simplistes, mais au moins simples, et ce que vous dites au départ de ce rapport, c'est-à-dire qu'il y a deux grands principes derrière la laïcité, c'est la liberté de conscience, bon, voilà, et la neutralité de l'État et des services publics. Voilà, ça, c'est deux grands principes, mais une fois qu'on a dit ça, voilà, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de l'école, quand on parle de l'éducation, quand on parle des valeurs que porte une institution? Et quand on sait aussi la diversité, qui n'est pas celle d'il y a 20 ans, qui n'est peut-être pas celle d'il y a 50 ans, qui n'est pas celle d'il y a 100 et quelques années au moment où on votait la loi de 1905, qui n'est pas celle aussi des années 1880 et qui n'est pas celle de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où on parlait non pas de laïcité, mais on parlait déjà quand même d'une forme d'éloignement de la société vis-à-vis du religieux, de cette sécularisation qui était portée aussi par les philosophes des Lumières. Finalement, on est toujours dans ce débat-là, mais on voit bien que, et c'est ce que vous dites longuement aussi sur le principe dynamique, enfin, l'aspect dynamique de ce principe de laïcité, et c'est aussi intéressant de voir comment on le questionne en 2022-2023, et que peut-être il y a 20 ans, on le posait un peu différemment, et dans les années 80, peut-être différemment, et ainsi de suite. Et c'est des principes qui sont vivants et qui rendent aussi la complexité de l'appréhender. C'est que selon les lieux où on est, donc on abordera probablement les territoires ultramarins, enfin je l'espère, l'Alsace et la Moselle, où se posent les principes, mais de façon aussi très contextualisée par rapport à ces territoires-là. Et puis, à la fin de ce premier temps de table ronde, je demanderai à Catherine Vercueil de bien vouloir, finalement, comme lectrice, alors, le rapport n'était pas forcément adressé directement aux inspecteurs ou aux enseignants en direct, mais enfin, il est disponible pour tout un chacun. Mais ce qui pourra nous intéresser, c'est de voir comment il vient nourrir ou questionner. Il y a beaucoup de questions de formation, notamment dans les recommandations. Voilà, et donc, qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne dis pas que la réponse n'existe pas, mais de former aux valeurs de la République, de former à la laïcité à la rigueur, on peut comprendre les aspects juridiques ou et aux valeurs, c'est déjà un enjeu plus complexe. Et juste, je bouclerai ma boucle par rapport à la revue et au numéro dont je parlais, où finalement, beaucoup de textes reviennent sur cette question des valeurs. Alors, pas forcément, mais des valeurs, de ce qui nous unit, de ce qu'on a en commun en termes de valeurs. On peut les appeler les valeurs de la République. Mais voilà, et finalement, les religions participent ou pourraient participer à cet ensemble ou de débats. On pourrait parler de choses sans la singularité de chacune des religions. Et la question des valeurs peut être quelque chose qui permet de tracer un commun. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Pierre-Emmanuel Raffi, donc de l'Institut dont parlait Luc, l'IHESEF, Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, qui est chargé de former les personnels d'encadrement de l'éducation nationale, et qui nous explique d'où vient cette curieuse idée de demander à un collectif de professionnels de produire un rapport d'étonnement.
Merci, bonjour à tous. Je trouve que le débat est bien posé sur l'objet de ce rapport qui est effectivement très curieux, qui est un objet assez curieux. Je vais juste reprendre, parce que tout le monde ne connaît pas l'IH2EF, et bien un petit peu voir... Voilà, IH2EF, Institut des hautes études pour l'école et la formation. Il faut bien voir deux particularités que j'aime bien rappeler de cet institut, qui sont des particularités françaises. Alors, ça fait bien, parce que comme la laïcité est une particularité dite française, c'est aussi un débat qu'on pourrait avoir. Première particularité, on est quand même un des rares pays où la formation des cadres, puisque c'est l'objet essentiel, le cœur du métier, la formation des cadres est déconnectée de la formation des enseignants. Dans de nombreux pays, évidemment, on devient cadre et c'est un parcours après avoir été enseignant et c'est dans le même institut, donc ce serait les INSPE, etc. Ici, on n'est pas dans ce cadre-là, il y a une école de formation des cadres. Deuxième élément qu'il faut bien avoir en tête aussi, qui est intéressant, c'est qu'on a une formation nationale avec vraiment cette idée, alors, qui renvoie à notre centralisme, etc., mais qui va articuler le national et l'académique, puisque la formation des cadres se défait aussi beaucoup en académie, mais avec cette articulation qui est à construire entre le niveau national et les niveaux académiques. Et c'est une histoire récente, 25 ans, l'Institut. Une histoire de 25 ans et qui est passée d'une sous-direction du ministère en charge de la formation des cadres à un institut des hautes études. Et je pense qu'une fois qu'on commence à comprendre cette trajectoire-là, on voit qu'on est passé de quelque chose qui applique une formation, un organisme de formation au service de l'État, à un institut qui aujourd'hui a pris une autre dimension et qui garde son cœur de métier, en particulier la formation initiale des cadres, inspecteurs, personnels de direction, qui viennent tous passer 3 semaines à l'IH2EF, pendant lesquelles, évidemment, la question de la laïcité est travaillée, fait partie du cœur du métier de façon très concrète. C'est vraiment un sujet qui est abordé régulièrement. En formation continue, soit en lien avec les académies, soit à la demande de la direction de l'encadrement, et on est en train d'y travailler en application de la circulaire de novembre dernier pour voir comment proposer aux académies des outils pour pouvoir poursuivre cette formation. Donc ça, ce volet-là, il continue. Mais le passage à l'Institut veut dire qu'on s'ouvre aussi vers l'extérieur, qu'on s'ouvre à la recherche et qu'on aille un peu plus loin. Alors, entrer vers la recherche, c'est tout le partenariat qui se noue avec les différentes universités et en particulier, effectivement, Luc le disait, le plaisir que l'on a de travailler avec l'IFE sur différents sujets, et c'est une vraie richesse pour nous. Et puis, c'est aussi d'aller explorer des sujets, non pas dans une posture institutionnelle, non pas dans un rapport de l'inspection générale qui va venir dire voilà ce qu'il faut faire, voilà, on a observé, et voilà les préconisations ministérielles, mais de proposer à un collectif composé d'une vingtaine, vous étiez 23, je crois, 23, à peu près dans ce cycle-là, 23, qui ont été sélectionnés, qui ont candidaté. Ils pourront vous raconter, c'est un acte de candidature, ce n'est pas simple, pour postuler.
Et donc, c'est le troisième.
C'est le troisième cycle.
Il y en a un quatrième en cours.
Il y en a un quatrième. Le troisième cycle des auditeurs. Le premier, et là, vous aviez sur la laïcité le premier qui s'est fait vraiment en présence. Covid oblige, vous comprenez bien. Mais sinon, le premier était sur un parcours sur l'histoire de l'éducation, en fait, où va l'école. Le second était sur la thématique école et territoire. Et le troisième était sur la thématique valeurs de la République et laïcité. Des personnes qui sont choisies, qui ont candidaté et à qui on va proposer, on va mettre à disposition un accompagnement sur un temps de travail plus que de formation extrêmement riche, je crois, engageant aussi, parce que c'est environ une semaine par mois mobilisée dans différents territoires à observer, à rencontrer, à explorer, à travailler pour au final produire un rapport. Alors, vous avez employé le mot et il reste encore pour l'instant, mais on va l'enlever, de rapport d'étonnement. Pour nous, on n'est pas dans un rapport d'étonnement qui est trop sourd d'ambiguïté, parce qu'un rapport d'étonnement, c'est ce que l'on demande de produire à quelqu'un qui vient dans un organisme, etc., donc dans lequel on est un lien, on lui dit, et on va s'emparer de son étonnement pour faire avancer l'entreprise. Ce n'est pas du tout le but. Il est là pour faire débat. Si on reprend les éléments du cycle des auditeurs, il est présenté comme, il s'agit d'interroger les grandes thématiques de l'école à la lumière des évolutions sociétales, des avancées de la recherche et de l'environnement européen. Donc, il est là pour faire débat. Il est là pour poser le débat. Et se retrouver ce soir permet d'être dans ce débat-là, avec un rapport qui est le produit d'un travail collectif, d'une écriture collective. Ça sera intéressant de vous entendre comment vous avez fait ce travail collectif, mais qui n'engage ni l'IH2EF en tant que tel, c'est-à-dire que ce n'est pas un écrit de Charles Taurossian, ce n'est pas un écrit du ministère, c'est l'écrit des auditeurs. Et donc, c'est bien important pour nous de le rappeler et de leur laisser la liberté de parole qui va avec, justement. Ils ne sont pas tenus de porter une parole institutionnelle de ce cadre-là. Mais en même temps, qui nous a permis aussi de produire un nombre de ressources que l'on retrouve sur le site de l'IH2EF avec des captations vidéo, avec des lectures, avec des ressources autour de ce thème de la laïcité pour qu'il puisse être rentré en débat. Et donc, voilà l'objet un petit peu, c'est-à-dire que ce cycle d'auditeurs, c'est vraiment pour s'emparer des questions. Aujourd'hui, et j'en termine, les auditeurs sont en train de travailler, on a un nouveau cycle qui travaille sur la question de l'école à l'ère d'une société numérique. Ensuite, on aura un thème sur l'orientation, etc. Et on continuera à creuser chacun des thèmes de cette façon-là.
La question, c'est, ça s'adresse à qui ou pourquoi faire? Et finalement, voilà, comment on verra peut-être avec dans le débat aussi entre vous, mais il sert à qui derrière?
Il sert justement pour ce type d'échange et de rencontre, c'est-à-dire qu'il est vraiment un objet pour un échange, il n'est pas une parole institutionnelle, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut parler, mais il permet de faire débat et il est aussi référencé, c'est-à-dire qu'il y a un travail suffisamment solide qui a été construit derrière pour pouvoir argumenter, trouver des arguments. Mais on n'est pas dans un document officiel ministériel.
Il n'empêche que le rapport est remis.
Alors, il permet d'être remis, ça faisait partie, effectivement, voilà. Tu l'as dit tout à l'heure, j'ai oublié de le préciser. L'engagement que l'on prend, puisque les auditeurs sont choisis, il y a un arrêté qui les nomme comme auditeurs, et donc il y a une restitution au ministre par les auditeurs qui viennent présenter au ministre leurs conclusions, ce qu'ils ont observé sur le terrain par rapport à cette grande question. Mais faisons bien la différence avec le fameux rapport de l'inspection générale, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que...
Mais il n'y a pas de volonté d'orienter, voilà. Je suis naïf dans la question que je pose.
Après, on va voir les auditeurs répondre.
À peu près. Mais par rapport à l'échange que vous avez eu avec le cabinet du ministre ou le ministre lui-même, du coup, c'est intéressant de savoir aussi comment c'est reçu par le politique. Voilà, comment il s'en empare. Est-ce qu'il en fait lui-même quelque chose ou pas,
Mais, mais la finalité, c'est vraiment lancer le débat. La finalité du rapport, pour répondre à ta question, c'est presque ce que l'on fait ce soir, c'est-à-dire on s'en empare et ça permet de lancer le débat et après, ça nous échappe. Et c'est très bien comme objet de débat.
Alors, Samuel Langard, ce qui nous intéresse, enfin, moi, ce qui, curieux, m'intéresse, c'est de savoir, alors, bon, le pourquoi on candidate, ça, c'est une chose, à la rigueur, c'est pas très utile, mais voilà, comment cette expérience, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle provoque? On pourra rappeler, revenir sur un certain nombre de points importants, des rencontres, des territoires peut-être particuliers. Voilà, mais qu'est-ce que ce travail, une semaine par mois, pendant une année, donc c'est dense ça prend, voilà, ça occupe. Qu'est-ce que ça produit, surtout que vous avez produit une thèse que vous avez soutenue un peu avant.
En 2018.
Voilà, et publiée très récemment. Sur l'islam et l'école et voilà comment au regard de votre travail, on va pas revenir exactement sur votre travail, mais voilà comment ça a fait bouger un peu les représentations que vous pouviez avoir sur cette question-là au regard de tout ce travail accompli.
Alors dans un premier temps, je voulais remercier l'IH2EF pour cette expérience exceptionnelle. Parce que c'est exceptionnel de pouvoir travailler sur une question sur un temps long, sur un an, et toujours avec le même groupe. Un groupe, hein, une partie éducation nationale, et puis une partie, on était deux, hein, dans trois, enseignement supérieur. Il y avait aussi fonction publique territoriale, il y avait des personnes... l'armée, donc majorité éducation nationale, mais quand même assez ouvert, hein, quand même sur je parle fort, donc oui pour le voilà. Donc ça c'est la première chose. La première chose, ça a été la richesse, hein, de l'expérience, comme vous l'avez précisé. Là, je peux le préciser de manière plus longue. Pas tout à fait une semaine, hein, mais à peu près 3-4 jours pleins par semaine, avec chaque séance une académie différente, une académie aussi ultramarine. Nous sommes allés à Mayotte. Nous avons fait aussi un voyage en Finlande, Finlande qui n'est pas la France. Pour la Finlande, nous sommes intéressés à l'enseignement, plus particulièrement à l'enseignement du fait religieux. Comment cette question a été mobilisée en Finlande. Et donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté déjà, vous avez mis en avant le fait que j'avais écrit sur la question de l'islam et de l'école, que voilà, ma thèse portait sur l'évolution de l'islam en France, ses répercussions sur la question éducative. Et je faisais la thèse que de la marche pour l'égalité de 1983 aux revendications identitaires religieuses, ce qu'on appelle revendications identitaires religieuses aujourd'hui, c'était une problématique de reconnaissance. Donc, voilà, j'arrêterai pour ma thèse. Donc, c'est vrai que pouvoir rencontrer des acteurs sur des territoires différents, alors la première chose, le premier enseignement, si je puis dire, c'est que l'indivisibilité de la République est confrontée à la réalité des territoires. Là, on le voit bien avec les régimes dérogatoires de l'Alsace-Moselle, Mayotte. Et puis, j'ai découvert, alors l'Alsace-Moselle, je le savais, mais alors pour la Bretagne, j'ai en fait découvert quelque chose finalement que je savais comme ça de manière factuelle. C'est le fait que 40% des élèves en Bretagne sont dans l'enseignement privé. Donc ça a été pour moi une forme de, pas de révélation.
Privé confessionnel,
oui, tout à fait. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on voit bien que là, ce n'est pas un régime dérogatoire, mais c'est un régime de fait atypique. Donc, on voit bien que entre le discours sur la laïcité, sa mobilisation, on peut parler de mobilisation depuis quelques années, sa mobilisation aussi médiatique et politique, mais on voit bien que ce discours et la réalité de terrain sont deux choses différentes. Là, c'est quelque chose, en tous les cas, pour moi, ça a été un enseignement, même si je fais de la recherche, en fait, on ne peut pas faire de la recherche en toute la France, et on ne peut pas rencontrer toutes les académies. Et là, on se rend compte que entre la médiatisation de cette question-là et la réalité territoriale, il y a une différence. La deuxième chose qui m'a particulièrement marquée, j'en avais parlé à Sarah, c'est sur je ne vais pas tout dire parce qu'il faut que je laisse quand même Afid s'exprimer, parce que je pense qu'on a eu les mêmes, peut-être, on a les mêmes remarques. Sur la question, c'est valeurs de la République, laïcité. Donc, je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'il y avait, en tous les cas, auprès des acteurs, il y a parfois quelques troubles, confusions avec la laïcité, et qu'on nous a souvent parlé de laïcité, mais il y a une académie, je ne sais pas si je peux la citer, l'Académie de Marseille, où c'est une académie. Voilà, c'est dans le rapport. Voilà, l'Académie de Marseille, où c'est une académie où on parlait de valeurs de la République. Et là, c'est quelque chose aussi qui me semble extrêmement important. Comment partager, comment faire vivre les valeurs de la République? Et à Marseille, la laïcité est un moyen pour faire vivre les valeurs de la République. Et on a rencontré une équipe de valeurs de la République extrêmement mobilisée, une cohésion, des responsables d'établissement aussi, au quartier nord de Marseille, où vraiment la question de la laïcité, c'était la question de les valeurs de la République et la question de l'égalité. Et là, on se rend compte que l'acception, la compréhension de valeurs de la République et de laïcité n'est pas toujours la même partout et que en fait, à l'Académie de Marseille, il y avait une cohésion, mais il y a surtout, c'est pas seulement l'Académie de Marseille, hein, ce sont tous les acteurs qui se mobilisent autour, les acteurs culturels aussi sur cette question-là. Et on est allé au MUCEM, hein, on est allé au Camp des Milles, et là vraiment, il y a une mobilisation de cette question et des valeurs de la République. Et je crois qu'on revient avec Marseille, avec cet exemple. Pourquoi je le cite? Parce que on revient au cœur de la laïcité. Et ce qui me semble la laïcité, hein, la loi de 1905, hein, c'est vraiment une laïcité inclusive.
Ceci dit, mais on y reviendra après. Ouais. Quand vous étiez auditeur, vous étiez CPE.
Tout à fait.
Dans un lycée voilà, lyonnais. Et qu'aujourd'hui, vous êtes chef d'établissement. Donc, c'est aussi ce changement-là qui m'intéressera derrière. Mais l'expérience comme auditeur, donc pendant l'année où vous étiez encore CPE, peut-être vous prépariez le concours dans la même période, donc une année dense. Voilà. Qu'est-ce que ce rapport a apporté à votre expérience comme CPE et peut-être comme futur chef d'établissement? Je ne veux pas trop brouiller les cartes. Mais...
Oui, oui. Merci de votre accueil. Merci à l'IH2EF d'avoir acté, entre guillemets, ma candidature. Puis merci à M. le recteur d'avoir accepter qu'on parte en formation, parce que l'acte de candidater, c'est aussi quelque chose, c'est un acte très important et ça prend une dimension, je disais, 33 jours de formation quand même. C'est sûr qu'on vous présentait ça au tiers d'établissement, c'est sûr qu'il peut se poser des questions. Et c'est
surtout
tout à
quand
fait
on est CPE
normal.
Dans un lycée.
Voilà, dans un grand lycée. Donc à l'époque, j'étais CPE, c'est dans le rapport, donc CPE au lycée La Martinière du Cher, dont le proviseur actuel, M. Couterain, fait l'honneur d'être avec nous. Donc, c'est un acte important de candidater. Moi, ce qui m'a fortement mobilisé sur ces questions-là, c'est d'abord mon expérience personnelle et aussi professionnelle, bien sûr. Alors, il se trouve que j'ai travaillé à la Duchère, il se trouve que j'y suis né, que j'ai travaillé, que j'y vis toujours. Donc, il y a sur un quartier, ce qu'on appelle les QPV, quartier politique de la ville, donc les questions de valeur de la République sont importantes. Et puis, c'était aussi de prendre une autre dimension par rapport à un terrain qu'on connaît peut-être bien ou qu'on croit connaître bien, et du coup de se décentrer et d'avoir vraiment une autre dimension nationale et voire même internationale avec la Finlande et puis les modèles européens qu'on a pu voir aussi sur ces questions de laïcité, de valeur de la République. Alors moi, ce qui m'a fortement marqué, c'est la synergie qu'on a pu créer dans nos groupes, parce que notre groupe était grosso modo 40%, 60%, 40% éducation nationale et 60% hors éducation nationale, avec une responsable de formation d'Engie, par exemple. Oui, c'est l'inverse, 60-40, oui, c'est l'inverse, ouais, pardon, c'est l'inverse. Donc 40% d'une responsable de formation d'Engie, vous allez parler de l'armée, mais aussi de collectivités territoriales. C'est comment ces questions-là travaillent les acteurs. Et on a pu le voir sur le territoire. Moi, je vais utiliser cette expression, la laïcité dans plusieurs mondes, pour plagier un petit peu le fameux livre dirigé par Jean-Louis Derouet, l'école dans plusieurs mondes. C'est voir un peu comment notre service public a aussi ce principe d'adaptabilité et comment les acteurs, contrairement peut-être à une idée reçue, essayent de faire en sorte que les choses se passent bien, avec quand même beaucoup d'intelligence, et d'éviter justement les problèmes, entre guillemets. Alors, ce n'est pas du tout le pas de vague, ce n'est pas du tout mettre la poussière sur tapis, mais ce qu'on a pu voir dans différents territoires, c'est d'essayer quand même de mettre en première chose la question de la liberté, et puis d'essayer d'amener les élèves, et ça c'est un travail éducatif, et c'est long, on sait tous que la question du travail éducatif, c'est un travail de chaque instant, à faire leur propre laïcité intérieure, enseigner la discernement entre croire et savoir, ça ne s'invente pas. Ce n'est pas comme ça d'un coup. Donc, c'est sur le temps long. Et on a vu, par exemple, des situations qui nous sont remontées. Alors, je pense particulièrement à Marseille, mais aussi à Mayotte. Hein, on a appris qu'à Mayotte, alors, des territoires particuliers, effectivement, des histoires particulières, la Bretagne aussi. Mais ils ont trouvé une forme de ce qu'ils ont appelé le compromis des oreilles. Il y a les jeunes femmes là-bas, les dames portent un espèce de foulard traditionnel qui s'allie. Mais comment enfin, puisqu'il y a la loi de 2004, et puis en plus, il y avait des agents aussi publics, donc ça questionne fortement la neutralité des agents publics, et bien ils ont trouvé un compromis qui s'appelle le compromis des oreilles. Du moment qu'on voit les oreilles, eh ben, on peut considérer que c'est pas un signe religieux, entre guillemets. Donc, ça questionne, effectivement. Nous qui venons de la métropole, on pourrait dire, mais comment ça, etc. Mais il faut comprendre tout le contexte local. Alors, quand on va pareil à Strasbourg, eh ben, le droit local est tellement important qu'on comprend aussi différemment. Quand on va en Bretagne, l'histoire de la Bretagne aussi, on a découvert beaucoup de choses en Bretagne. Alors, c'est vrai que la loi de 2004 ne s'applique pas dans les établissements privés. Mais c'est une des choses, nous, plutôt Éducation nationale, qui nous a fortement questionné, c'est par exemple de ne pas afficher la charte de la laïcité à l'école dans les établissements scolaires. Alors, c'est vrai que l'article 11…
Ces établissements sont sous contrat avec l'État malgré tout.
Voilà. Donc, toutes ces dérogations, pas dérogations, explicitations, interprétations, etc., on avait des responsables diocésains de l'enseignement catholique qui nous ont clairement expliqué que l'article 11 leur posait problème, puisqu'il applique justement, il appuie sur la neutralité des personnels, bon, ce qui n'est pas le cas dans les établissements privés sous contrat notamment. Donc, on avait même osé faire une préconisation de l'afficher, puis de simplement stipuler que l'article 11 ne s'appliquait pas, parce que si les autres articles ne posent pas de problème, on pourrait se demander pourquoi on ne pourrait pas l'afficher. Bref, donc ils ont décidé de faire autrement. Donc cette question de la territorialisation me semblait très importante.
Mais ça pose la question jusqu'où on va pour l'adaptation, les grands principes que je citais au tout début, hein, la liberté de conscience ou la neutralité. Voilà, jusqu'où il faut aller, ou jusqu'où, parce qu'on peut parler de territoire, mais peut-être que sur la métropole de Lyon, on peut parler aussi de différents types de territoires où les choses ne se jouent pas non plus exactement de la même manière. Mais donc, voilà, quelque part, où se joue, jusqu'où on peut s'autoriser, où on est autorisé, où il est prudent ou imprudent d'aller en termes d'adaptation, sans parler de négociation.
Oui, mais toujours avec l'objectif de l'éducation. Et c'est ça qui est revenu souvent chez les acteurs, c'est que l'objectif quand même, ça reste celui-là. Le principe d'éducabilité et puis de garder toujours un lien avec les élèves et les familles. Toujours faire en sorte de ne pas rompre ce lien. Et ça, c'était important parce que ça a vraiment montré que la République, elle se fait là ou elle se fait dans ses actes du quotidien.
Oui, tout à fait, Afid. Mais pour rebondir hein, sur votre question, on a quand même... particulièrement à Strasbourg, hein, on a quand même interrogé, parce que le concordat, c'est l'enseignement religieux des deux protestantismes, de la religion catholique et du judaïsme, et pas de l'islam. Donc, on a interrogé la rectrice, clairement, sur cette question-là. Donc, la réponse est que c'est un fait historique, historiquement, mais hérité. Mais est-ce qu'on peut aussi, et on en a parlé, hein, on l'a dit assez clairement, est-ce qu'on peut se contenter aujourd'hui de cette réponse? Est-ce que c'est possible? Et quand on a remis le rapport au ministre, on nous a demandé à chacun hein, de commenter, hein, de faire les remarques qui me semblaient importantes, et j'ai abordé cette question-là. J'ai abordé parce que un autre auditeur, donc qui était de cette région d'ailleurs, avait mis en avant hein, l'enseignement du fait religieux, le concordat, et que finalement ça convenait à tout le monde. Et j'ai posé la question, j'ai dit oui, mais aujourd'hui, je crois que l'école est confrontée à un défi extrêmement important, c'est le pluralisme. Le pluralisme religieux, culturel et ethnique, il faut le dire. Et que, est-ce qu'on peut aujourd'hui se contenter de cette réponse en ce qui concerne le concordat? Et est-ce qu'il n'y aurait pas, je mets les pieds un peu dans le plat, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être rupture d'égalité? C'est une question que je pose encore aujourd'hui. Donc, on avait aussi des questionnements polémiques.
Je pense qu'il n'en manque pas, en fait, de questionnement polémique quand on aborde ce genre de questions. Et je pense que l'enseignement du fait religieux, laïque du fait, pardon, parce qu'on va me reprendre après, c'est bon, laïque du fait religieux, ou des faits religieux, je ne sais plus si c'est pluriel ou singulier, mais du coup, c'est aussi un enjeu, on va dire, qui est affiché comme étant une problématique importante depuis 20 ans, dans l'école publique en tout cas. Le rapport de Bray de 2002, voilà.
Qui précisait que l'enseignement de faits religieux n'est pas un enseignement religieux.
Exactement. Mais on peut faire aussi le constat, alors je ne sais pas si Catherine Vercueil serait d'accord avec moi, mais que 20 ans après le rapport de Bray, donc quasiment quelques mois après, c'est février, je crois, 2020-2002, on est un peu plus de 20 ans plus tard, voilà, et quel état global on pourrait faire sur la réalité ou la pertinence ou l'efficience de cet enseignement laïque du fait religieux dans l'école publique. Et c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait qu'on commence, mais on va commencer en poursuivant la discussion.
Je vais peut-être me permettre d'abord de rebondir sur ce qui a été dit avant, parce que je vais dire que j'ai peut-être la chance d'être dans une académie où ce n'est pas Mayotte, ou ni Strasbourg, voilà, et que les choses sont, ou même la Bretagne, voilà, que les choses sont peut-être un peu plus simples, voilà. Donc, je voulais dire déjà que l'expérience qu'ont menée les deux collègues, eh bien, elle est effectivement très riche et que j'aimerais bien que tous les personnels de l'éducation nationale en particulier puissent bénéficier de 33 jours pour pouvoir être formés aux valeurs de la République et aux principes de laïcité en allant découvrir, en prenant cette hauteur, effectivement, que vous avez pu avoir.
S'en prendre sur son temps personnel, en passant du diplôme. Enfin bon.
Exactement, voilà. Donc ça, c'est voilà, ce que je voulais souligner. Et peut-être dire que ce qui m'interpelle dans ce que vous remarquez l'un et l'autre, c'est la question du territoire. Hein. Et donc là, effectivement, en tant qu'historienne géographe, moi, ça m'interpelle beaucoup. Et juste peut-être pour rappeler actuellement ce qu'est la politique de notre ministère d'Éducation nationale en matière de formation à la laïcité, valeurs de la République, c'est, me semble-t-il, bien de tenir compte de cette notion de territoire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une obligation aujourd'hui de former tout personnel. Hein, donc,
y compris en formation initiale.
Voilà, y compris en formation initiale. Je dis bien tout personnel d'éducation nationale, pas simplement les personnels enseignants, mais voilà, on est là.
Ça vaut pour les fonctionnaires en général.
Voilà, et bon, il y a bien sûr la loi, effectivement, et puis la suite du rapport qui avait été rendu et qui préconisait que tous les agents des services publics soient formés, mais si on reste dans l'éducation nationale, on a quand même une formation qui est demandée sur le plan du territoire national, qui doit être menée partout dans toutes les académies. Donc là, on a, on va dire, une volonté, nationale. Et puis, on a laissé, et je pense que c'est, me semble-t-il, peut-être l'intelligence en fait, de notre institution, le choix aux académies de choisir le format. Voilà, c'est-à-dire de faire en sorte que dans chaque académie, pour tenir compte peut-être de ces spécificités académiques, de ne pas imposer un format. On a quand même un cahier des charges hein, qui est bien précisé dans l'arrêté du 16 juillet 2021, dans lequel, pour la formation continue, hein, je ne vais parler que de cela, on a effectivement des entrées, des compétences qui doivent être travaillées par les enseignants, mais ensuite la déclinaison sur le territoire et dans chaque académie est laissée à l'initiative de l'académie. Et donc nous, on a effectivement, juste peut-être pour décliner ce qui se passe dans l'Académie Lyon, je ne peux pas dire que ce soit la même chose partout, mais trois modules. Un module qui est effectivement un module qui permet de revenir sur des principes et peut-être par rapport à ce que vous vouliez avoir effectivement dans vos préconisations qui permettent de réintroduire peut-être la culture juridique et historique sur ce que c'est que la laïcité, que sont les valeurs républiques. Et puis ensuite, on va décliner sur des situations concrètes qui vont, au niveau académique, permettre d'échanger, de mutualiser entre différents acteurs. Et ensuite, il y a un troisième module qui va commencer dans les établissements et qui introduit une troisième échelle territoriale qui va être adaptée à l'échelle de l'établissement. C'est-à-dire qu'on laisse à l'établissement, sur une demi-journée, la possibilité, en fonction de son contexte, justement, d'adapter et de former en interne et de produire quelque chose peut-être justement de réflexion sur pourquoi pas l'enseignement des faits religieux, comment est-ce qu'on s'y prend dans notre établissement, sachant que quand même l'enseignement des faits religieux, pour terminer et répondre à la question finale, est bien présent dans nos programmes. Voilà, donc voilà, et que nationalement, tout enseignant…
Je parlais juste de l'effectivité, voilà. Bon, voilà.
Voilà, mais l'institution a bien prévu que le rapport de Debré a pointé la nécessité fondamentale de travailler, quelle que soit d'ailleurs la discipline. Hein. Alors, l'histoire-géographie, on fait ça tout le temps, c'est plus facile, mais dans d'autres disciplines, c'est la même chose. Voilà. On pourra revenir en questionner là-dessus, mais je voulais quand même replacer dans un contexte et revenir sur cette notion de territoire qui me paraissait intéressante.
Alors, du coup, une autre question, j'en profite. À la lecture du rapport, qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a conforté? Qu'est-ce qui vous a surpris aussi, peut-être gêné? Comment vous avez reçu et finalement, comment vous avez pu en faire votre miel aussi par rapport au contexte de l'Académie de Lyon?
Alors, je pense qu'il y a un point, effectivement, avec lequel je suis totalement d'accord dans les préconisations. C'est effectivement l'idée de se dire que la laïcité, contrairement à ce qu'on peut entendre, penser, n'est pas un principe qui contraint. C'est quelque chose qui doit permettre justement la mise en place de ces différentes valeurs. Et souvent, quand on commence les formations, on a quelques enseignants, quelques personnels qui ont une vision très négative. Et le but des formations, c'est justement
l'impression qui peut être partagée par les élèves.
Également, voilà. Donc, l'idée, c'est peut-être de déconstruire, de rappeler effectivement ce que c'est que cette laïcité, ce qu'elle permet de faire et de faire. Peut-être que nos formations actuellement, quand je parle, pense au module qui est mis en place en présentiel dans l'académie, qui s'appuie sur des études de cas, sur de l'analyse de situations concrètes, entre par une dimension justement un peu négative, c'est-à-dire les atteintes à la laïcité. C'est effectivement ce que relève dans le rapport. Peut-être que effectivement ce point-là est à travailler, mais moi j'ai bon espoir. C'est-à-dire que si on part du principe que les personnels ont une formation pour montrer, enfin qui montre ce que c'est que la laïcité, qu'on remette les choses en ordre dans les esprits, qu'on ne mette pas la poussière sous le tapis et qu'on voit bien quelles sont les difficultés, ensuite on peut le décliner et là mettre en place des projets parce qu'effectivement, dans chaque académie, on a aussi des partenaires. Alors, on n'a pas le MUCEM, on n'a pas le Camp des Milles, mais on a la Maison du Zieu, on a le CHRD, voilà. Donc, on a plein de ressources qui permettent de travailler aussi cette dimension positive.
Alors, sur les signalements, sur les atteintes, quel est votre point de vue? Parce que je partage assez ce qui est dit sur le fait que ça doit aussi, ce n'est pas simplement refaire remonter de la donnée dont le ministre parle. Hein, du coup, s'il a dit que tous les mois, il y aurait ce genre de communication ministérielle. Et en même temps, quand on est dans un établissement, comment ça pourrait devenir ce problème-là? Une question aussi qu'on met en discussion, qu'on partage et qui devient un objet aussi par lequel on peut aussi espérer du développement professionnel, de la cohérence dans les discours ou de la mise en cohérence des discours.
On a vu un exemple sur Lille, dans le lycée professionnel Gustave Eiffel, où ils ont créé un collectif laïcité. Alors, il n'y a pas que des enseignants, effectivement. Vous avez rappelé que dans un établissement scolaire, il n'y a pas que des enseignants. Oui, mais surtout si je voulais dire d'autres institutions, collectivités locales, etc., de rattachement. Donc, il y a aussi, ce n'est pas forcément la même culture. On ne met pas, il y a tout un jargon éducation nationale à expliciter aussi. Donc, on l'a vu à Lille, là, c'était vraiment, ils avaient fait tout un travail sur deux années, nous disait la proviseure. Et c'était très important parce qu'ils sont partis justement de visions complètement différentes avec ce qu'ils pouvaient. Alors, eux, au départ, c'était la question des repas à la cantine. C'était ça qui questionnait. C'est un des trois grandes questions par rapport aux atteintes à la laïcité. Et comment ils ont réussi à déconstruire un petit peu tous ces problèmes-là. Et puis surtout, en travaillant ensemble. Et c'est la question du collectif et à l'intérieur d'un établissement, et c'est une des préconisations qu'on fait, c'est que ces personnels-là qui travaillent ensemble toute la journée, les jours, en fait, ils ne se forment pas ensemble. Pas tout le temps. Ils devraient, mais très peu. D'où l'importance du J3 ici dans l'Académie de Lyon, parce que ça doit être un moment justement qui doit permettre ça. Et quand on essaye de regarder les cas, alors effectivement, à partir de situations positives, c'est-à-dire une entrée pédagogique par la liberté, d'abord ce qui apporte la liberté. Alors, vendredi dernier, on avait la question de l'égalité qui avait animé Violaine la Prononcière, et puis Madame l'inspectrice était présente aussi sous votre direction. C'était important parce que ça, c'est des choses, les élèves, quand on leur enseigne ça et on prend le temps long, même les collègues enseignants, parce que quand on fait la formation académique aussi, ça donne toute une autre perspective. Expliciter en quoi la laïcité permet d'abord, libère, émancipe, vous avez des élèves qui commencent à réfléchir, qui commencent à se dire, tiens, c'est peut-être ça, c'est peut-être beaucoup plus intéressant que la surmédiatisation des cas négatifs, etc. Mais il faut partir déjà du point de vue des acteurs. Mais à l'intérieur des établissements, créer un collectif laïcité, alors ça peut prendre une appellation différente, hein, mais qu'il y ait des initiatives là-dessus, et surtout, alors, là on vient de passer la journée nationale de la laïcité, on a vu sur beaucoup de territoires qu'est-ce qui se faisait le 9 décembre, parce qu'il y avait des choses, des établissements, il y a beaucoup de choses, des établissements, il y en a moins, il y a quelque chose de formel qui, entre guillemets, ronronne, etc. Mais il y a quand même, il y a des établissements qui sont vraiment mobilisés sur ces valeurs-là, et c'est des établissements qui nous disaient qu'ils avaient moins de problèmes. Donc, je pense parce qu'ils en parlent, justement. Et c'est les professionnels qui en parlent, les professionnels de l'éducation, et non pas simplement la surmédiatisation.
Alors, Régis, votre question sur les atteintes à la laïcité. Alors, pour les atteintes à la laïcité, je prends ma casquette plus de chercheuse. Alors, sur la question des atteintes, par rapport aux recherches que j'ai pu faire auprès d'enseignants, il me semble que, en tous les cas, sur le signalement de ces atteintes, il me semble qu'il y a une problématique de fond. La problématique de fond que j'ai pu rencontrer avec des enseignants, finalement, quand je leur posais la question sur les problèmes qu'ils rencontraient par rapport aux religieux, que ce soit dans leur classe ou dans l'établissement, mais en fait, la perception de chaque enseignant peut être différente. Et que, en fait, souvent, pour la majorité des, même des responsables éducatifs, des responsables éducatifs, donc, pour eux, finalement, quand on parle de faits religieux, finalement, par rapport à ces atteintes à la laïcité, il y a très peu de choses qui concernent le fait religieux. Quand ils analysent ces atteintes, ils analysent plus pour certains, plus sur. Là, c'est un référent laïcité que j'avais interrogé il y a quelques années. En fait, pour lui, c'est plus le fait d'une socialisation juvénile et plus le besoin de la liberté pour les jeunes. Pour certains, ça va être aussi l'effet de groupe. Alors, pour certains aussi, sur des territoires particuliers, on va parler plus d'effet territoire que de fait religieux. Pour d'autres, finalement, ça va être aussi, certains vont plus parler de provocation, bien sûr, de problématiques identitaires. J'ai l'exemple d'une enseignante qui m'avait dit, par rapport aux vêtements, par rapport au refus de certains enseignements, que en fait, sur certains territoires, c'est finalement cette question religieuse, leur donner des billes pour exister. Des billes, ce sont ces termes. C'était une manière de mobiliser le religieux pour une construction identitaire, parce que, elle le disait bien, parce que sur ces territoires enclavés, c'est difficile d'exister. Donc voilà, on voit bien que qu'il y a des stratégies et que les enseignants l'expliquent bien et le comprennent bien. Enfin, les enseignants et les responsables éducatifs le comprennent très, très bien. Donc, d'où la problématique des signalements, il me semble. Quand vous analysez ces faits, ces atteintes à la laïcité, quand vous les analysez comme autre chose que des faits qui ont un rapport à la religion, comment… il me semble que c'est une vraie problématique pour les enseignants, de mon point de vue, je ne sais pas du vôtre, mais c'est une vraie difficulté pour l'établissement.
Alors, moi, je vais revenir là-dessus parce qu'effectivement, je voulais axer mes propos davantage sur la formation, mais je vais quand même revenir sur effectivement ces fameux signalements et dire que peut-être aussi que dans le cadre des formations, et je me tourne vers Violaine Laprononcière, qui est chargée de mission dans l'académie et qui anime le réseau des formateurs, je pense que tous les formateurs sont bien conscients qu'il faut aussi faire prendre conscience de ce que c'est que cette culture du signalement, qui n'est pas une culture en lien avec du flicage. Le but n'est pas ça. C'est bien effectivement de montrer comment, en sachant ce qui se passe dans les établissements, on peut justement aller dans ce degré de facteurs explicatifs pour comprendre la réaction. Pourquoi ces jeunes filles, pourquoi c'est… Voilà. Et le fait est qu'effectivement, les équipes Académie Valeurs de la République, avec les chefs d'établissement qui sont quand même à la manœuvre, je tiens à le souligner, c'est quand même les premiers qui sont dans les phases de dialogue avec les familles, qui vont essayer de comprendre les situations, vont justement décliner et voir si on est bien sur des effets de groupe, si on est sur des effets de provocation, si on est sur cette question de culture identitaire, et le fait qu'on est toujours sur une ligne de crête, c'est-à-dire bien dire attention, chaque cas est un cas particulier, ce qui peut parfois justement provoquer dans l'établissement un temps conséquent de dialogue et qui va essayer de faire comprendre pour les jeunes qui n'ont pas compris ce que c'était que la laïcité et ce que ça permettait justement de leur permettre de réfléchir et puis de s'exprimer et d'être dans des phases de dialogue. Et ça, je crois que c'est le but. Et je pense que dans nos formations, on insiste beaucoup là-dessus, dire que le signalement, ce n'est pas quelque chose qui va punir, qui va sanctionner, mais qui est bien là. Alors, certes, pour essayer de voir quels sont les phénomènes prégnants et pouvoir trouver des solutions pour y répondre.
Ou une situation, parce qu'il y a eu une instrumentalisation politique en l'occurrence, ça fait que c'est devenu un débat public, une controverse très vive qui a entraîné des politiques, des décisions et des politiques publiques. Mais je vais laisser…
Réagir, parce que vraiment c'est très riche, il y a beaucoup de choses. Premier élément, je voulais réagir par rapport à votre présentation du rapport. C'est intéressant parce que vraiment, mais c'est notre histoire nationale, vous êtes parti sur la vision de la laïcité associée à l'école publique. La laïcité, valeur de la République, est beaucoup plus riche et beaucoup plus diverse que l'école publique. C'est-à-dire que je pense vraiment que c'est une valeur positive, émancipatrice, et qui se décline dans des formes variées, ce qui fait qu'on ne peut pas la réduire juste à la situation de l'école. Je crois que pour moi, c'est très important de le rappeler.
Même si la commande était quand même de regarder la question de l'école, puisque le sous-titre, c'est de l'école à l'université.
Il faudra l'école à l'université, mais l'université n'est pas un monde laïque à part. Les établissements privés ont un espace dans la laïcité qui leur est propre de façon à faire vivre la laïcité. C'est-à-dire qu'il faut bien la voir comme un tout et pas réduire à l'école publique. Petite anecdote, c'est parce que vieille étude que j'avais faite, quand la laïcité à l'école, Jean Massé fait sa pétition, et les groupes spirites sont à la manœuvre. C'est-à-dire que c'est les groupes spirites qui poussent pour que la laïcité… Donc, c'est-à-dire que cette question de la laïcité et de l'école, elle est avant la loi de 1905, etc. Donc, c'est un premier élément vraiment important. Donc, moi, je trouve qu'une des richesses du rapport, c'est de montrer qu'effectivement, la laïcité, moi, je ne mettrais qu'un seul, la laïcité s'exprime dans un contexte, dans un territoire et dans un contexte juridique différent. Et l'université n'a rien à voir, où on a des adultes qui sont déjà construits, etc., avec l'école, où effectivement, l'école publique, où la famille, parce qu'il faut ramener la responsabilité de la famille, fait le choix aussi d'aller là ou là. Deuxième élément, peut-être le danger de vouloir être dans notre culture très nationale de préconisation qui va donner un cadre dans lequel tout le monde devrait se plier. La situation de Mayotte, elle est parfaitement adaptée à la situation de Mayotte. Elle n'aurait pas de sens appliqué ailleurs. Et la République, une et indivisible, c'est aussi d'accepter cette diversité et cette richesse. Je crois que ça a toujours été, contrairement à des discours comme quoi on serait un truc… Non, enfin, on a cette diversité, et heureusement, sinon on ne vivrait pas. C'est-à-dire que ça serait un régime quand même sacrément autocratique qui imposerait quelque chose de terrible là-dessus. Sur revenir sur la formation, et là, la situation, on parlait des chefs d'établissement, c'est effectivement quelque chose de très compliqué parce qu'on aimerait tellement les choses simples. Or, on est sur à la fois des notions des valeurs et du juridique. Si l'on a du juridique sans valeur, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le juridique qui sortirait du sens, ce serait terrible. On aime bien dire il faut que les choses soient claires, que ce soit tout blanc, que ce soit tout noir. Non, vive le gris. vivent les zones qui nécessitent de réfléchir, qui sont complexes, qui sont difficiles à vivre. Je sais pour tous les collègues chez l'établissement que c'est très compliqué, mais qui vont interroger et qui ne vont pas appuyer en disant « Ah, c'est ça, c'est la situation, tac, j'applique ça automatiquement. » Oui, je vais aller entamer le dialogue avec la famille. Quelle était l'intention derrière? Est-ce que c'était une provocation de jeunes? Ah non, tiens, est-ce que c'était… Ah, est-ce que… Pourquoi? Comment? Et c'est à partir de tout ce travail qui est fait avec les familles, avec les collègues, qu'on va pouvoir avancer de façon à partager, et ça, je rejoins tout ce qui a été dit, sur l'importance qu'il y ait un collectif qui comprenne qu'on est sur une valeur de la République, que tout fonctionnaire, parce que c'est pareil, on parle des fonctionnaires d'État, doivent porter ces valeurs-là, et donc doivent être suffisamment formés, aussi bien sur le sens que sur l'attitude à avoir, de façon à pouvoir agir et s'en emparer, et pas se dire « c'est l'affaire du prof d'histoire géo, c'est l'affaire du prof de philo, c'est l'affaire de toute une communauté qui porte ces valeurs dès lors qu'on devient fonctionnaire et qu'on a fait ce choix de porter les valeurs de la République en tant que fonctionnaire ».
Alors, avant de passer peut-être au temps des questions et des échanges avec les personnes qui participent, je voulais juste qu'on aborde la question de l'enseignement supérieur, justement, puisqu'on n'en a pas parlé. On est à l'ENS de Lyon. Vous êtes référente laïcité à l'Université Lyon 2. Ça fait partie aussi du rapport, hein, où vous faites une sous-partie sur la question de… Ça fait partie de la déclinaison en trois sur l'enseignement supérieur, où les règles sont juridiques, pas les mêmes. Qu'est-ce qui est bon à savoir ou à retenir concernant cette… qui est mal, pas de mon point de vue, assez mal connue, peut-être peu étudiée, de la situation de comment la laïcité se joue, se met en œuvre dans l'enseignement supérieur. Alors, étant donné que l'enseignement supérieur, pardon, est aussi dans les BTS, dans les lycées, donc, et voilà, il y a les enseignements supérieurs aussi, hein, de ce point de vue-là.
Tout à fait. Alors, sur la laïcité dans l'enseignement supérieur, à part les INSPE, c'est vraiment le décret de 2021, de juillet 2021, ou août, je ne sais plus, juillet, je comprends toujours. L'arrêté juillet ou août. Voilà. Donc, qui oblige tous les services publics à avoir des référents laïcité. Donc, c'est une obligation d'État. Donc, c'est une mission pour nous. Il y a mon collègue de l'ENS aussi qui est nouvelle, hein, qui est très nouvelle. Et donc, on a aussi, nous, les mêmes missions que les autres référents laïcité. On a une mission de médiation pour régler les problèmes. Bien sûr, il y a un service juridique à l'université, mais vous l'avez bien précisé, ce problème de laïcité ne se règle pas toujours par le jeu juridique. Il y a beaucoup de cas par cas, donc… On a ce rôle-là en tant que référent. On a un rôle donc de formation des personnels, de formation et des personnels enseignants et des personnels administratifs. Donc ça,
les étudiants.
Et oui, alors vous avez tout à l'heure évoqué la question des étudiants.
Avant qu'on commence.
Avant qu'on commence, oui. En fait, je viens de découvrir qu'il y avait cette obligation-là. De aussi former les étudiants de nos universités, voilà. Alors que bon, on les forme quand on travaille sur ces thématiques, bien forcément on les forme, mais on travaille pas toujours. Toutes les disciplines ne travaillent pas sur ces thématiques. Donc voilà un petit peu pour les. Oui, alors le aussi la valorisation de la laïcité, se rapprocher aussi des autres institutions. Donc voilà un petit peu nos missions. Alors moi, ce que je pourrais dire, donc je suis référente laïcité depuis mai 2022. Donc mai, il n'y avait plus d'étudiants à l'université. Donc, les problématiques, mais ça concerne aussi les personnels, les problématiques que j'ai pu rencontrer, j'ai commencé à la rencontrer à partir du mois de septembre-octobre, donc c'est très récent. Et en fait, finalement, parce que nous, on n'a pas, donc vous l'avez tout à l'heure bien précisé, on a affaire à des adultes construits, majeurs, qui ont la liberté de conscience, pleinement. Donc, on n'a pas de problématiques liées avec
à la loi de 2004 qui s'applique
2004,
à l'école.
Voilà, exactement, et avec les tenues aussi, parce qu'avec ce qu'on appelle les rébellas, les djelbèques, toutes ces choses, on n'a pas cette problématique, ce n'est pas interdit. La seule interdiction, c'est ce qu'on appelle la loi de 2010, la loi intégrale, comme partout. Donc, on n'est pas sur ces problématiques de tenue, mais les problématiques, elles sont celles qu'on peut rencontrer. Enfin, moi, je vois plus certains collègues et ce qu'on avait vu à Lille. Hein, c'est la question peut-être des prières à Lille, ce qui avait été abordé, mais pas à l'université, hein, plutôt au Crous, hein, dans la salle commune. Il y a ces problématiques-là, mais que moi, personnellement, je n'ai pas eu à aborder. Mais une problématique que je commence à avoir, c'est les stages pour les étudiants. Ça, c'est une vraie problématique. Mais que j'avais aussi de toute
pour
façon.
Pour quelle raison?
En fait, les jeunes filles qui sont voilées et que, en fait, la problématique
de trouver un stage.
De trouver un stage, non seulement de trouver un stage, mais elles ne font pas seulement des stages dans des institutions publiques, hein, elles font des stages dans des associations, des entreprises. Et que, en fait, ben, y a une vraie problématique. Et donc, on se rend compte qu'une partie de nos étudiantes. Parce que je dis étudiante, parce que c'est vraiment une problématique d'étudiante, ben, a des grosses difficultés musulmanes, voilà, a des difficultés de trouver un stage. Et le stage, c'est des master 2 en général, les stages longs font complètement partie de la formation. Oui. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je rencontre, un problème avec les stages. La deuxième chose, voilà, la deuxième problématique qu'on peut rencontrer sont des, par exemple, sur des étudiantes qui sont doctorantes. Et qui n'ont pas de thèse financée, hein. Ça c'est important de le dire, elles ne sont pas sous contrat doctoraux, il n'y a pas de thèse financée, donc elles ont tout à fait le droit de porter le voile ou autre chose. Et, mais par contre, vous savez bien que les étudiants doctorants sont aussi des vacataires, hein, enseignants, et donc là on a cette problématique où donc, voilà, quand vous êtes étudiant, vous pouvez porter le voile et quand vous intervenez, donc c'est la neutralité parce qu'on a une obligation de neutralité, hein, comme tous les autres services publics. Donc, voilà un petit peu les problématiques qu'on rencontre.
Oui, alors Sophie Garrard de la Tour, je suis professeure de philosophie politique ici à l'ENS de Lyon. Je suis ravie de cette table ronde et je vous remercie beaucoup pour vos présentations qui sont très stimulante puisque moi, je travaille sur ces questions-là aussi de multiculturalisme, d'intégration des minorités depuis de nombreuses années. Je suis vraiment étonnée justement de ce manque de communication que vous avez rappelé dans votre présentation entre la formation des cadres et tout ce qui touche à l'éducation nationale, à la formation aussi, j'imagine, des cadres de l'université et le monde de la recherche où ces débats sont très vifs depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que c'est très étonnant de voir le peu de circulation qu'il y a entre les deux mondes. Donc, je vous remercie vraiment pour ce travail. Je trouve que c'est extrêmement stimulant. Je suis ravie d'écouter les résultats. La question que je me posais en vous écoutant présenter les points qui vous ont le plus frappé, c'était sur l'articulation du religieux et du social. Parce que lorsque vous avez évoqué le cas de la Bretagne, alors peut-être qu'en Bretagne, c'est spécifique, mais il me semble que dans d'autres régions, on observe ce glissement de certaines classes sociales vers l'enseignement privé, souvent confessionnel, mais sous contrat. Les enjeux sont plus sociaux, en fait, que religieux, c'est-à-dire que donc les gens vont aller, les enfants de classe favorisée vont aller dans l'enseignement privé, mais sans que dans cet enseignement privé se trouve face à un prosélytisme religieux très poussé, où là il y aurait un problème religieux, à proprement parler, de perte de liberté de conscience. Voilà. Et je me demandais dans les différents territoires que vous aviez pu étudier, et la façon dont la laïcité est comprise par les agents, par les personnes qui travaillent sur le terrain, comment cet enjeu social était abordé, s'il était abordé. Si la question des valeurs était articulée à cette question aussi de la valeur de l'égalité comme égalité sociale, ou si c'était quelque chose qui était complètement à part.
Quand j'ai présenté un petit peu ce qui m'avait plus marqué là, sur ce périple des auditeurs, j'ai fait référence à Marseille, l'Académie de Marseille, où là, la question sociale, la question de l'égalité a été extrêmement abordée. Sur les autres académies, un petit peu moins, parce que c'était aussi, ça dépendait des contextes, mais à Marseille, on était vraiment sur la question de l'égalité. Et je voulais rebondir aussi sur ce que vous avez dit sur justement aujourd'hui, hein, et aussi dans les familles musulmanes, hein, le choix du religieux se fait pour d'autres raisons que la question religieuse, plutôt la question sociale. Mais c'est ce qui se passe aussi en Bretagne, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de moins en moins, en tous les cas, le religieux, la pratique perd un peu de sa vitalité, mais ça ne change pas l'adhésion quand même aux religieux dans ces régions-là. Donc, le choix du religieux vient aussi d'une croyance que dans les écoles privées, hein, confessionnelles ou pas, il y a meilleur encadrement des élèves, c'est toute cette croyance hein, autour... Oui.
Si je peux juste compléter là-dessus, dans le numéro qui va sortir, qui sera en ligne, j'espère, dans quelques jours, la troisième partie rend compte du dernier volet de la recherche Redisco, qui a été pilotée par Françoise Lantôme à ECP à Lyon 2, avec l'IFE aussi. Et beaucoup de choses ont été. Et beaucoup d'articles portent sur ce volet-là, pardon, portent sur justement la place de la religion et de l'enseignement des religions dans les écoles ou les établissements privés sous contrat. Pas le hors contrat, mais le sous-contrat. Et ce qui est intéressant, ce qui revient un peu en filigrane de beaucoup de textes, c'est que l'argument religieux fait partie de l'identité des établissements parce qu'ils se sont construits historiquement autour de cette question religieuse, mais qu'aujourd'hui, ce que vient de dire Samia, c'est que l'argument est plutôt de l'excellence. Venez ici, il y aura de la réussite, voire de la promotion, voire la promotion républicaine, enfin, bon, la méritocratie en marche. Ce qui est paradoxal pour moi, mais bon, c'est comme ça, et que voilà, dans le discours qui est opéré en termes de recrutement des élèves, la confession joue peu, en fait. Il n'y a pas forcément de demande d'adhésion, il n'y a pas d'obligation particulière, sauf certains établissements, d'assister au cours de pastoral, qui est l'enseignement religieux dans ces établissements. Donc, il y a une sorte de souplesse ou d'aménagement qui fait qu'il y a moins d'emprise entre guillemets religieuse. Il y a vraiment un discours de venez chez nous et il y aura une réussite. Voilà. Et ça revient très souvent.
Tout à fait. Et ça me fait penser à quelque chose. Et Afid, hein, c'est vraiment une conversation qu'on avait eue alors entre nous hein, sur justement, c'était l'exemple de la Bretagne, mais on peut aussi cet exemple, le voir aussi dans d'autres académies, c'est que voilà, cet enseignement religieux, les familles adhèrent pour des raisons hein, de réussite, mais des raisons aussi d'encadrement moral, toutes ces choses-là. Mais quid de la question de l'inclusion de ces établissements ? Ces établissements, ce sont les établissements publics qui vont prendre en charge les problématiques d'inclusion hein. De situation de handicap, de ces choses, beaucoup plus que, en tous les cas, c'est ce qu'on a.
Après, je pense qu'il faudrait croiser la carte des établissements privés, publics et les IPS qui ont été publiés par le ministère récemment pour voir aussi comment. Et il y avait une carte et des graphiques sur la ville de Paris, donc ça ne vaut pas pour la France. C'est les indices de positionnement social, c'est-à-dire voir quelle est la catégorie sociale majoritaire. Voilà. Donc, il y a des gradients comme ça. Et on avait vu sur Paris que toutes les classes supérieures, etc., étaient majoritairement dans le privé et que les catégories les plus populaires, les plus pauvres, étaient majoritairement dans le public, avec des effets de ségrégation territoriale très forts aussi. Donc, alors après, ce qui est vrai sur des villes comme Paris où les espaces sont très ségrégés, ce qui vaut, je pense, aussi sur la métropole de Lyon, mais je passe, n'est-ce pas ? Sur d'autres types de territoires, type Bretagne ou autre, la question, ou dans l'Ouest en général, hein, se pose autrement parce que, le privé occupe une place tellement importante, c'est 40% des élèves, à peu près, dans l'Ouest, en Bretagne, c'est ce que vous dites, hein, voilà. Donc c'est tellement un phénomène important, pas majoritaire, mais tellement important, qu'en fait, cette question sociale se pose sans doute pas de la même manière.
Et puis, c'est la problématique territoriale. Vous avez des villages où il n'y a pas d'école publique en Bretagne. C'est ça, c'est vraiment un découpage territorial. Et là, on avait vu une maman, enfin, une mère, fédération de parents qui se plaignait. Là, pour le coup, on est encore aussi qui, elle, était obligée, par rapport à son lieu de vie, de mettre ses enfants dans une école privée. Donc, il y a cette problématique-là. Et pour revenir à votre question sur l'égalité, sur la question de l'égalité, cette question, elle se pose beaucoup à Mayotte. Parce que Mayotte, hein, là, ça a été pour tous un choc, hein, pour nous, pour tout le groupe. Mayotte, la problématique, ce n'est pas la problématique de la laïcité là-bas qu'on rencontre à Mayotte. Hein. C'est une problématique de violence, hein. C'est une problématique sociale très forte.
Et de jeunes seuls.
C'est plutôt cette problématique-là. Et là, la problématique de l'égalité, elle est vraiment extrêmement prégnante. Et là, on avait, je ne me souviens plus de son nom, le juge qu'on avait rencontré, parce qu'on a rencontré qui était, voilà, il y a des problématiques très, très fortes, et la laïcité n'est pas le problème.
N'est pas la priorité.
C'est non seulement pas la priorité, mais c'est vraiment pas le problème.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Je voulais juste réagir sur cette question des établissements privés, puisque vous avez compris dans la présentation que je faisais que, pour moi, on va sortir de la guerre entre les privés qui ne seraient pas laïcs et les établissements publics qui seraient laïcs, puisque, quand même, rappelons que dans les établissements privés, on est bien sur les mêmes programmes, qu'il y a un contrôle par l'État et qu'il y a une forme de laïcité qui s'exerce autrement, en réalité. Avec, pour avoir travaillé dans un territoire où, effectivement, le public et le privé, etc., des familles qui zappent, hein, qui passent chez l'un, chez l'autre, et ça renvoie plutôt à la famille consommatrice et qui va chercher là où elle va trouver son intérêt. Donc, je pense qu'on est moins sur la question religieuse, sauf quelquefois, que là-dessus. Et avec un contrôle quand même aussi extrêmement important, puisque ces établissements, effectivement, restent observés par les académies pour savoir ce qu'on y enseigne, ce qui s'y passe. Et ça, c'est la garantie, pour moi, justement, d'une école publique et qui respecte la laïcité. Et aujourd'hui, c'est intéressant dans le travail que l'on fait ensemble. Il y a toute une démarche, vous savez, d'évaluation des établissements et qui est commune à toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, publics et privés, avec des croisements, avec des gens du public qui vont aller participer à l'évaluation des établissements privés. Donc, on est sorti de cette guerre, à mon avis, vraiment ancienne, voilà, d'un côté. C'est pour ça que je voulais juste réagir par rapport à cette question pour la replacer.
Et ça dépend où, évidemment, il y a des...
Alors, Catherine Urtic-Delattre.
Oui, merci beaucoup. Bonjour Catherine Urtic-Delattre, je suis chargée d'études ici à l'Institut français d'éducation et anciennement enseignante de premier degré, formatrice également. Déjà, merci beaucoup pour cette table ronde. Et effectivement, d'entendre parler de cette tournée que vous avez faite dans les territoires, c'est extrêmement intéressant, et le lien aussi avec la recherche. Moi, je voulais poser la question, donc j'apprécie beaucoup la manière dont vous envisagez la laïcité comme un espace de liberté, effectivement. Donc, liberté de croyance, liberté d'échange et liberté de vivre ensemble. Et du coup, il me semble qu'il y a quelque chose de très complexe du côté de la question de la liberté d'expression des élèves. Parce que finalement, bon, par exemple, je me suis penchée, bon, moi je travaille particulièrement sur la relation école-famille, et je me suis penchée sur un document que vous connaissez sans doute, qui est la laïcité expliquée aux parents, qui a été écrit par la FCPE et la Ligue de l'enseignement. Et j'étais assez gênée parce qu'il m'a semblé que dans ce texte, on donne le message que les élèves sont soumis à une obligation de neutralité dans l'espace scolaire. La laïcité dans l'espace public, on est bien d'accord, n'est pas un espace neutre, hein, n'est pas une obligation de neutralité pour les citoyens, dans certaines limites. Et par contre, il y a obligation de neutralité pour les personnels. Et il y a quelque chose de très ambigu sur cet espace scolaire dans lequel on confond finalement expression et prosélytisme. Et donc, je me demandais si, quand vous avez circulé, si vous avez vu des équipes qui explorent un peu ce côté-là, de qu'est-ce qu'on peut donner comme liberté d'expression aux élèves. Et par exemple, quand vous dites, très à propos, construire la différence entre croire et savoir, c'est extrêmement compliqué, ça signifie qu'on ne va pas regarder seulement qu'est-ce que c'est que savoir, mais qu'on va regarder aussi qu'est-ce que c'est que croire. Et est-ce qu'il y a la place dans l'école publique laïque d'aujourd'hui pour parler de qu'est-ce que c'est que croire ?
Oui, ouais, moi, je...
Juste sur la question, je vous remercie vraiment d'avoir évoqué la question de la neutralité, parce qu'il y a vraiment une grosse confusion. La neutralité, les élèves n'ont pas à être neutres, ils n'ont pas cette obligation de neutralité. Et donc, souvent, il y a cette
Sauf sur la confusion. Tenue qui ne doit pas être ostensible.
C'est ça.
D'accord.
C'est
ils
ça.
Ils peuvent exprimer leurs croyances.
Tout à fait. Mais justement, vous l'avez bien soulevé, il y a cette confusion, et la confusion aussi parfois de certains enseignants aussi sur cette question de neutralité. Là, c'est la première chose. Et là, Valentine Zuber, hein, sociologue des religions, hein, elle a beaucoup travaillé sur cette question de la neutralité des élèves, en tout cas de la confusion, hein. De cette neutralité supposée. Mais sur la question de... on ne sait pas quelque chose, finalement, qu'on a beaucoup abordé, la question de la liberté d'expression. Finalement, c'est pas, je ne sais pas si tu as plus de souvenirs. On l'a peut-être abordé à l'INSPE. Voilà. À l'INSPE, on a eu, alors à chaque fois, on était en petits groupes avec des interlocuteurs différents à chaque fois par groupe. Et c'est une question qu'on a peut-être abordée à l'INSPE avec des formateurs, mais avec des futurs enseignants, hein, des étudiants. Et du coup, c'est une très bonne question parce que là aussi, il y a confusion. Il y a une grande confusion entre liberté d'expression et liberté, enfin, en tous les cas, entre la croyance. Parce que nous, souvent, quand on abordait cette question sur l'enseignement du fait religieux, par exemple, hein, auprès et des stagiaires et des formateurs, on a eu des réponses hein, qui disaient on n'a pas le droit de parler de religion. Les élèves n'ont pas le droit de parler de religion. Donc, c'est assez étonnant. Donc là, on la voit vraiment, cette confusion. Et il y a aussi de la part des enseignants, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'en fait, quand on aborde cette question religieuse, c'est toujours l'entrée par les incidents, les atteintes à la laïcité. Donc, toujours de ce point de vue-là.
Si je puis me permettre, je pourrais rajouter que ça fait partie du travail des enseignants, justement, de faire la part entre les croyances et le savoir. Et si les élèves n'expriment pas leurs croyances, on ne peut pas travailler sur cette distinction. Donc, c'est clairement dit. Enfin, je pense que dans les formations également, on insiste beaucoup sur cette différence entre croyance et savoir, sur la démarche, sur l'esprit critique qu'il faut apporter aux élèves. Et puis, peut-être réfléchir aussi davantage sur l'épistémologie des disciplines. Comment est-ce que se construit effectivement un savoir, puisque le rôle de l'école, c'est aussi de dire ce que c'est que le savoir, mais sans opposer, hein, on n'est pas dans de l'opposition, mais bien montrer que l'école est là pour expliquer comment le savoir se construit. Et à aucun moment, je crois, il n'est dit dans aucun texte, alors bon, peut-être qu'il y a une petite ambiguïté sur le texte que vous évoquez, mais à aucun moment, il n'est dit qu'on ne parle pas de religion à l'école, enfin... Enfin, je dirais que les programmes d'histoire-géographie, par exemple, enfin, je serais bien ennuyée si effectivement on n'abordait pas ces questions-là.